Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, explique une vidéo destinée à sensibiliser à cette question, alors imaginez qu'au lieu de proposer un rapport sexuel, il s'agisse d'offrir une tasse de thé. Si vous dites « Hey, ça te dirait une tasse de thé ?» et que la personne répond « Oui, génial, j'ai super envie d'une tasse de thé », alors ça veut dire qu'elle veut une tasse de thé. Mais si elle répond « Je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas trop sûre », vous pouvez préparer une tasse de thé ou pas, mais soyez bien conscient que la personne n'en voudra peut-être pas. Et si à la fin, elle ne la boit pas, n'insistez pas pour qu'elle la boive. Ne la forcez pas. Ce n'est pas parce que vous avez préparé le thé que la personne est obligée de le boire. Et si la personne a répondu en revanche « Non merci, je ne veux pas de thé », alors ne lui faites pas de thé du tout. Il se peut aussi que la personne dise « Ah oui, merci, je veux bien du thé », et quand il arrive, elle n'en veut plus. Alors oui, c'est énervant, parce que vous avez fait un effort pour le préparer, mais ce n'est pas une raison pour la forcer. Elle en voulait, elle n'en veut plus. Il y a des gens qui changent d'avis, le temps de faire bouillir l'eau et de la verser sur le thé. Ils ont le droit. On peut imaginer aussi que la personne est inconsciente. Bien sûr, vous n'allez pas lui préparer du thé. Il se peut même qu'elle ait été éveillée ou consciente quand vous lui avez proposé, et qu'elle ait dit oui à ce moment-là. Mais le temps que vous prépariez le thé, elle s'est endormie ou elle est devenue inconsciente. Or, les gens qui dorment ou qui sont inconscients n'ont aucune envie de boire de thé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce que vous devez donc faire, c'est poser la tasse et vous assurer que la personne va bien, pas la forcer à boire du thé. Et si la personne a dit oui, qu'elle a commencé à boire sa tasse de thé et qu'elle s'est endormie entre-temps, alors ne continuez pas à lui verser son thé de force dans la gorge. Posez aussi la tasse. C'est la même chose si quelqu'un est venu boire le thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire que cette personne a encore envie d'en boire aujourd'hui et qu'elle veut en boire tout le temps. Si vous comprenez tout ça avec le thé, conclut la vidéo, pourquoi serait-ce si dur à comprendre quand il s'agit de sexe ? Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, deux nouvelles histoires autour du consentement qui montrent que ce n'est pas gagné par Delphine Dilly.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'était mon premier amoureux de quand j'étais ado, que j'avais 14-15 ans. On s'était quitté quand j'en avais 16 et je ne l'avais pas revu depuis, mais on était restés en contact parce qu'on habitait tous les deux dans deux pays différents. Et là, en fait, je le revoyais, c'était l'occasion, je venais d'arriver à Paris. Et lui venait pour 24 heures, et donc c'était un peu le souvenir de ce premier amoureux. J'étais très contente de le voir, j'étais super excitée, enfin, retrouver un vieux copain en fait. 3 ans après, moi j'avais 18 ans, enfin presque 19. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il arrivait très tôt le matin, j'avais pas son horaire. Je m'étais réveillée un peu en sursaut, je m'étais dépêchée, j'étais rentrée chez moi, j'avais pris une douche et en fait, au moment où j'étais sous la douche, bah, mon portable sonne et c'était lui, il était en bas de chez moi, il me demandait le code d'entrée. Donc je lui ai ouvert la porte en étant en serviette de bain. J'étais mal à l'aise parce que je pensais que ça envoyait un double discours, parce qu'en fait, on s'était toujours dit un jour on fera l'amour, un jour on fera l'amour. Et là, bon bah voilà, c'était l'occasion ou jamais. Il venait chez moi, il passait une nuit chez moi parce qu'il avait besoin d'un. Enfin bref, c'était ce qu'on avait prévu. Sauf que moi, à ce moment-là, je me retrouve en couple. Et donc, bah patatras, finalement, ce sera pas encore le bon moment, quoi. Et le fait que je lui ouvre la porte en étant à moitié trempée, avec ma serviette de bain autour du corps, bah je trouvais que, ouais, c'était pas terrible pour. Dans l'idée de finalement, non, on ne couchera pas ensemble, mais quand même, je me montre à moitié à poil. Enfin, je trouve, voilà, il y avait quelque chose qui n'était pas top. J'aurais préféré être habillée, quoi. On est parti déjeuner. Ensuite, on était contents, donc on s'est acheté une bouteille de champagne. Je sais pas, on l'a bu, on s'est remémoré des bons moments. Moi, j'avais mon copain qui n'était pas à Paris à ce moment-là, qui m'écrivait beaucoup de SMS parce qu'il savait très bien que. Donc mon ex et très bonne amie était avec moi, donc il était un peu angoissé. Et donc il l'a remarqué et il m'a dit, mais dis donc, il est extrêmement amoureux de toi, ce garçon, t'as de la chance, c'est bien. Et puis, enfin, faut qu'il se détende parce que de toute façon, vous êtes en couple et je vois qu'il t'aime, donc il se passera absolument rien entre nous deux. Tu peux lui dire que je te l'ai dit. L'après-midi se passe, c'était très bien, on regarde des films, bref, voilà. Et la nuit commence tôt, parce qu'on était en hiver, et on était au lit, et puis bon, je sais plus, on s'est endormi, parce qu'on n'avait pas beaucoup, enfin, aucun de nous deux n'avait beaucoup dormi la nuit précédente. Et en fait, pendant la nuit, j'ai senti une grosse masse sur moi, j'étais sur le ventre, allongée sur le ventre, et j'ai senti une grosse masse sur mon dos, et puis j'ai pas très bien compris, il y avait un souffle qui était particulier. Et là, j'ai senti une pénétration qui était d'abord vaginale. Il y a quelques allées et venues, enfin, dans mon souvenir, très peu, 3-4. Et ensuite, il s'est retiré et après, il m'a pénétré, mais analement. Et j'essayais de m'extraire, enfin, de m'extirper. Et donc, je me dandinais un peu, je bougeais. Parfois, j'arrivais à le faire sortir, mais il re-rentrait. Et son souffle était très bizarre. Et en fait, j'arrivais absolument pas à parler, il y avait aucun son j'arrivais à émettre aucun son, ce qui m'a un peu perturbée. Et j'avais une vision de mon copain, justement, qui était dans la chambre, les bras croisés, en train de me regarder, et qui disait, mais quelle salope. Il s'est arrêté d'un coup, il s'est levé, il est allé dans la salle de bain, et moi, je me suis recroquevillée, je me suis mise à pleurer, mais silencieusement. Et quand il est revenu, j'étais dos à lui et avec sa voix normale, il m'a dit « je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris ». Et j'ai rien répondu, il est revenu se coucher et il s'est endormi et moi je suis restée éveillée, j'ai absolument pas fermé l'œil de la nuit. J'ai pas bougé non plus, je suis restée, j'étais dos à lui, recroquevillée. J'ai pleuré mais silencieusement parce que je ne voulais pas qu'il sache que je pleurais. Je crois qu'il ne l'a pas vu. Je crois vraiment qu'il l'a pas su. J'ai juste attendu que les heures passent. Je suis restée là. Le jour s'est levé. Et lui, il dormait, quoi. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il parte. Et le lendemain, en fait, son portable avait plus de batterie, donc son réveil n'a pas sonné. Il avait un train à prendre. Il s'est réveillé un peu à la dernière minute. Il avait loupé son premier train. Il a vérifié, il y en avait un second, mais dans les 20 minutes. Et donc, il est parti immédiatement. Donc on n'a pas eu à se dire au revoir, on n'a pas eu à se regarder, on n'a pas eu à se toucher, on n'a pas eu à en parler. Et ça s'est terminé, il est parti, voilà, il a claqué la porte et le soir c'était Noël, en famille. Moi, j'ai appelé une de mes meilleures copines. Je faisais du droit à l'époque. Et c'était une copine de droit aussi. Et on s'est retrouvés à la terrasse d'un café, toutes les deux. Et on essayait d'analyser ce qui s'était passé. J'essayais de savoir, de mettre un mot dessus. Et donc, le mot, c'était viol ou pas. Je savais pas si c'était un viol ou si ça l'était pas. Et donc, on a fait un truc de base. On a pris un peu notre code civil et nos dictionnaires, on a regardé, oui, effectivement, ça correspondait à un viol, mais étrangement, j'avais du mal à pas à l'accepter, parce que j'avais absolument pas honte ce concept de être une femme violée, j'avais pas honte de ça. Comme j'avais une amie qui, elle, avait été violée, et de manière extrêmement violente, justement, pour moi, c'était psychologiquement violent, mais pas physiquement violent. J'avais du mal à me mettre sur la même ligne auquel, pour moi, c'était beaucoup moins fort ce que j'avais vécu, beaucoup moins grave, beaucoup moins traumatisant que elle, son viol extrêmement jeune, à 13 ans, dans une ruelle, le soir, par un inconnu, quoi. J'estimais que j'avais provoqué la chose, parce que je l'ai accueillie en étant à moitié nue. On partageait le même lit, j'étais aussi un peu dans la séduction, il y a quand même quelque chose où c'est ton premier amoureux, tu le retrouves, t'as toujours voulu avoir une relation sexuelle avec lui, mais t'as jamais eu l'occasion. Mais non, en soi, j'avais pas envie de lui. J'en avais encore moins envie pendant ma nuit. l'acte sexuel non consenti et enfin forcé, parce qu'il y a eu une réalisation de la force, c'est-à-dire que j'étais réellement bloquée, je pouvais plus bouger. On peut pas dire que je pouvais plus respirer parce qu'il m'étranglait pas, mais j'avais quand même le poids d'un mec de 22 ans, musclé, tout ça, sur mon dos, j'étais complètement le visage enfoncé dans un oreiller et les poumons enfoncés dans un matelas, quoi. Donc, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y avait pas de son, que j'émettais aucun son, que j'y arrivais pas. C'est peut-être parce qu'en fait, j'étais un peu en train d'étouffer. J'avoue que je sais pas trop parce que comme j'étais quand même profondément endormie quand c'est arrivé, je pense que j'étais trop concentrée sur le fait de comprendre ce qui est en train de se passer, étant donné que c'est quand même allé assez vite. Mon copain, donc de l'époque, lui avait envoyé un message dans lequel il lui disait que il le méprisait profondément pour ce qu'il m'avait fait, voilà. Et donc il m'écrivait en me disant j'ai reçu un message de la part de ton mec, je comprends pas trop, il m'insulte, je vois pas ce qu'il veut dire. Je suis désolée d'être partie aussi rapidement. J'espère que cet événement n'aura pas d'impact sur notre relation parce que je m'en voudrais vraiment, je tiens à toi, là, là. Et je lui avais pas répondu parce que je me disais, cette phrase, j'espère que cet événement n'aura pas d'impact sur notre relation. Je m'étais dit, mais ce mec n'a, enfin, il se rend compte de rien, il se rend pas compte de ce qu'il vient de me faire et ça m'avait blessée. Et donc je lui avais pas répondu. Pendant longtemps, j'ai regretté de l'avoir laissé dormir à côté de moi, parce qu'il y a quand même eu ce moment. Enfin, j'ai quand même ensuite passé 5 heures à peu près avec lui à côté de moi, quoi. Et qui dormait profondément, enfin, c'est-à-dire d'un sommeil absolument extraordinaire. Et donc, ouais, je m'en voulais beaucoup de pas l'avoir réveillé, de pas lui avoir crié dessus, de pas lui avoir dit mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'a pris, ou juste de lui avoir demandé des explications. À aucun moment, en fait, on n'en a jamais discuté. Et ça, je m'en voulais pas mal. Lui avoir encore une fois laissé le pouvoir, en fait. Le pouvoir de décider quand il allait partir. En fait, voilà, je m'en voulais beaucoup. Je voulais pas lui montrer qu'il avait de la force sur moi. Je voulais pas... je voulais lui montrer que je contrôlais la situation. Enfin, en tout cas, lui faire croire qu'au final, je contrôlais moi aussi. L'année qui a suivi, en tout cas, il y avait beaucoup de moments où... ça a eu un impact énorme sur ma vie sexuelle, sur mon désir pour les hommes et aussi sur la confiance que j'avais en eux, parce que lui j'avais une confiance absolue en ce mec-là, et puis bon bah au final voilà. Et ouais, et puis il y a toujours cette notion un peu sexy qu'on voit dans les films, de la fille qui se fait réveiller par des baisers de son homme, et voilà, moi c'était hors de question. Les 3 mois qui ont suivi, enfin plus, mais. Enfin, mon copain ne pouvait pas, en fait, venir me réveiller pendant la nuit ou me toucher si j'étais dodo. Je me mettais immédiatement à... Je me débattais, je me mettais à pleurer. Ou je tapais et je pleurais. Donc c'était un peu violent, il fallait faire gaffe. Ou fallait juste que je change de place dans le lit, mais bon, voilà. Et j'ai bien réussi à étouffer la chose... j'y pensais plus, je pensais plus à lui, je faisais ma petite vie, et donc 9 ans après les faits, et ben tout s'est réveillé, et j'ai réalisé qu'en fait, finalement c'était pas de ma faute s'il m'avait sauté dessus, que je l'avais pas provoqué. Je me suis souvenue aussi que je m'étais retrouvée nue, et moi j'étais pas nue quand je m'étais couchée avec lui, j'avais plus de culottes, j'avais plus tout ça, et qu'en fait il était complètement conscient de tout ce qu'il faisait. Il était conscient quand il m'a pénétré vaginalement parce qu'il n'était pas protégé. Il savait que je prenais pas de contraception à l'époque. Et donc, très vite, il était allé analement, mais c'était pour pas prendre le moindre risque. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, c'était qu'il était extrêmement lucide. Il n'était pas en train de faire une petite crise de somnambulisme ni quoi que ce soit. Je m'en suis énormément voulu de ne pas avoir réussi à dire non. Et je crois que c'est encore le cas. Mais j'ai eu très peur, en fait, surtout du fait que j'essayais de dire des choses et qu'aucun son ne sortait de moi. Et en fait, j'ai eu ce truc en me disant, oh là là, si un jour je suis dans la rue, qu'il m'arrive quelque chose, que je me fais agresser, est-ce que je vais réussir à crier ou pas? Parce que ça, c'est une question qu'on, en fait, on se pose, mais on n'a pas vraiment la réponse. Et bah, moi, j'ai expérimenté une situation dans laquelle je l'avais la réponse parce que physiquement, aucun son ne sortait de moi, malgré toute l'envie que j'avais envie de crier, de dire non, de tout ça, bah rien ne sortait. Et ça, c'est, enfin, pour moi, je trouve ça terrifiant. Parfois, le corps, il fait pas ce qu'on a envie qu'il fasse.
J'ai grandi dans une famille plutôt modeste où tout ce qui était de l'ordre de l'intimité, des relations amoureuses ou affectives et la sexualité évidemment était tabou, on n'en parlait pas. Donc j'ai pas du tout eu d'éducation à la sexualité, ni aux premiers amours, ni aux premières fois. Donc je pense que j'ai eu un côté naïf, un peu fleur bleue, romantique, qui a grandi avec l'image du prince charmant. J'avais très vite compris que ce qui était important, c'est de faire des études, si je voulais pas rester dans mon milieu, pour être une femme libre. J'ai fait un master en relations internationales à Strasbourg. J'avais 26 ans. J'avais pas suffisamment d'argent pour terminer ma dernière année de master. Donc je suis rentrée dans ma région d'origine, travailler un petit peu. Je rencontre un premier élu qui me dit « Ben non, moi avec votre CV, je peux pas faire grand-chose, votre cursus, mais allez voir telle personne qui est députée européenne, je pense que ça correspondrait plus avec votre formation et votre CV. » Donc je me présente à sa permanence comme ça un jour. Je tombe sur son assistant parlementaire qui me dit « Ben non, l'équipe est au complet », qui me reçoit, qui m'accueille, vraiment très sympa. Il me dit « Ben, il n'y a pas de place pour vous, je suis désolée, l'équipe est au complet. » Et en fait, je sais pas, 10 jours, une semaine après, je le croise à la caisse du supermarché parce qu'il passe à ma caisse où je travaillais. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, bah, je vous l'ai dit, j'ai besoin de sous pour terminer mes études, donc voilà, je travaille. 15 jours après, il me rappelle en me disant, bon, vous travaillez, vous économisez les sous qu'il faut, vous partez faire votre dernière année et on vous prend en stage en fin de formation. Pour moi, c'était juste incroyable parce que c'était un coup de pouce en or auquel je croyais pas. Quelqu'un qui me faisait confiance, puis ça me motivait grave. Bon, j'étais déjà motivée, hein, mais c'était magique. C'était vraiment un conte de fées. Donc, quand je suis arrivée en stage, j'étais l'assistante de l'assistant parlementaire, en fait. Donc c'était le mari de la députée européenne pour laquelle je travaillais. Il prenait vraiment compte de ce que je disais, il me demandait mon avis sur plein de choses, plein de projets, plein de dossiers. Donc j'ai pas eu le sentiment d'être la stagiaire. J'étais vraiment inclus dans l'équipe. Il me complimentait, j'étais jolie ou j'étais intelligente ou que... Et quand il a commencé à me faire la cour, j'ai pas très bien compris, je crois. Au début, j'y ai pas cru, je me suis dit « je me trompe ». Moi, j'ai pas l'habitude qu'on me fasse des avances comme ça. Enfin, plutôt, moi, dans mon milieu, les gars, ils sont cash, quoi. T'as un côté... Là, c'était fin, c'était bourge, quoi. C'était un truc que je connaissais pas du tout. Et à la fin de mon stage, ils me proposent d'aller passer un week-end à Paris. Et puis là, je crois que je vois le truc venir, mais sans vouloir le voir, en fait. Je me dis, tiens, bon, ils ont un appartement à Paris, ok, il y aura nécessairement ou deux chambres ou un canapé sur lequel je pourrais dormir. Mais ça m'effleure, en fait, hein. Je me pose pas... Je crois que j'ai envie de succomber sur le moment. Et je me dis, allons-y, j'étais pas allée à Paris, jamais de ma vie, donc c'était l'occasion, voilà. Et ça a été un week-end assez exceptionnel, parce que... Je suis allée voir la première fois de ma vie une pièce de théâtre, La Cantatrice Chauve. Je me souviendrai toujours toute ma vie de Ionesco. C'était assez incroyable. On va manger dans un super restaurant. On va faire des trucs classe. Quand on est rentré chez eux, voilà, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une chambre. Donc cette première fois où on a fait l'amour, pour moi, elle était un passage obligé. Bon ben voilà, ça fait partie du jeu. Je lui dois bien. Pour moi, on allait en rester là. Voilà, mon stage était fini, j'avais vécu une super chouette expérience et puis j'allais passer mon oral et ma soutenance de mémoire. J'allais être diplômée et voilà, j'avais 26 ans, j'avais la vie devant moi. Et puis en fait, dans le courant de l'été, il me rappelle pour me dire que... En septembre, il me propose un poste dans leur équipe. Et enfin, juste la proposition en or que tu peux pas refuser, quoi. Les 9 premiers mois, c'était cool. On était toujours dans un rapport, dans une relation amoureuse. Et je pense que les premiers mois, c'était chouette. Et malgré son âge, je pense que j'étais séduite par tout ce qu'il savait, toute la culture. Pour moi, c'était séduisant. Ça s'est compliqué à partir du moment où moi, j'ai voulu stopper, parce que j'arrivais plus à gérer tout, en fait. J'arrivais plus à gérer le fait que ma boss soit son épouse, hein, qu'il y ait quand même une relation hiérarchique entre lui et moi, mine de rien. Et puis, j'avais 26 ans, il en avait 56, quoi. Enfin, tu vois, il y avait une emprise totale. Une emprise totale dans la mesure où, comme elle avait quand même une vie publique, fallait pas du tout que je parle de ce que je vivais. Ça devait être tu. Donc, bien sûr, pas les copains, pas la famille. Donc, je me suis éloignée de mes amis parce qu'en même temps, c'était une histoire secrète. Donc, c'est là où les premiers mois, c'était beau parce qu'on vivait, on vivait des choses assez incroyables. Il me proposait des vacances, il m'amenait. On est parti en Espagne, on est parti dans des hôtels de luxe. Enfin, j'ai vraiment eu la belle, les grandes vies. Et c'est là où ça a commencé. Il me disait, tel soir je viens chez toi, parce que c'était lui hein, qui faisait l'agenda. On se voyait quand lui il l'avait choisi, quand lui était disponible, chez moi ou à tel endroit, c'est lui qui choisissait l'endroit. Il arrivait avec une bouteille de vin, on buvait aussi beaucoup. Et du coup, nécessairement, à chaque fois qu'on se voyait, on faisait l'amour, que j'en ai envie ou pas en fait. Je crois que ça commençait à me saouler que ce soit lui qui décide, parce que du coup j'avais plus de vie. Je me suis sentie être sa chose parce que j'étais à sa disposition. Il y a une fois où il a fallu que je pleure pour qu'il se rende compte que non, j'avais pas envie. Que non, je voulais pas qu'on fasse l'amour. Et en plus, c'était super compliqué parce qu'on était à l'étranger, dans une chambre d'hôtel, dans un pays dont je parlais pas la langue. Et il a fallu que je pleure et il a fallu que ça prenne des proportions de drame pour qu'il me dise « Ok, d'accord, très bien, je m'arrête ». Mais il y a plein d'autres fois où j'ai pas osé dire non. Et il s'en est pas soucié. Je me suis dit, si j'ai d'autres petits copains, il va se dire, voilà, ça y est, c'est fini. Parce que j'arrivais pas à lui dire on arrête. Parce que au début, je m'en sentais pas capable. Et puis aussi parce que je le voyais tous les jours au boulot et parce qu'elle était là aussi et qu'il y avait un rapport de domination et de force qui s'était installé, qui était... J'avais pas la force. Comme elle savait la relation qu'on avait, lui et moi, et qu'elle l'acceptait et que c'était leur mode de fonctionnement de couple, C'était une règle tacite dans leur couple, chacun avait sa vie, donc elle aussi, elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie. J'avais peur de ce qu'on pourrait dire de moi, du jugement qu'on pourrait avoir si ça se savait. Je savais pas comment me sortir parce que c'était aussi une activité professionnelle incroyable dans laquelle je m'épanouissais, qui me plaisait. Je devais renoncer à tout en fait, à mon taf aussi. C'était le fouillis dans ma tête, j'arrivais plus à faire la part des choses. Et comme en plus je pouvais pas en parler, j'avais pas une amie ou des amis pour me dire « Bon, mais là Gwen, y a un truc qui va pas quoi ». C'était eux, ils devenaient un tout. Devenaient mon patron, mon partenaire, mon confident. Tout, c'était devenu malsain. C'était Et à partir du moment où j'ai voulu sortir de cette relation, ça a été compliqué. Ils m'ont pas laissé partir si facilement. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh ben, j'arrête mon moyen de contraception. Truc débile. Je me suis dit, voilà, si je prends plus ma pilule, il va avoir peur. Donc, il voudra plus qu'on fasse l'amour. Mais ça n'a pas marché non plus. Et au contraire même, je suis tombée enceinte. Je lui ai dit, et puis on m'a fait comprendre qu'il fallait pas que j'en parle, qu'on allait gérer cette IVG tous les trois, elle, lui et moi. Donc l'IVG se passe, c'est là où j'ai dit, ok, stop, ça suffit. Stop. Et j'ai fui. T'as honte, tu te sens sale, puis tu te sens bête, tu dis mais comment, mais c'est de ta faute en fait, comment t'as pas été capable de dire non, c'est pas compliqué, non? Et voilà, 9 ans après, cette histoire évidemment fait encore partie de moi, j'ai cheminé avec ça, je me suis reconstruite. Je me suis renseignée, alors longtemps après, hein, puisque finalement c'était il y a 2 ans, à partir du moment où j'arrivais sur la fin du délai de prescription pour porter plainte suite à un viol ou une agression sexuelle. Ça me travaillait et je crois que j'avais peur de me retrouver un jour et de me dire « Ah mais mince, en fait maintenant je peux plus ». Donc je m'étais renseignée, je suis allée voir une avocate à qui j'avais raconté mon histoire. Et voilà, je m'attaquais à un gros morceau. Et puis aussi j'avais aucune preuve de ce que j'avançais. J'avais gardé aucun mail qui pouvait prouver cette histoire, cette relation. Il n'y avait aucun témoin, il n'y avait rien. Donc l'avocate ne m'a pas dit de ne pas porter plainte, elle ne pouvait pas d'ailleurs, mais elle m'a fortement déconseillé. Elle m'a dit, moi je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour vous, beaucoup plus difficile, que vous ne pourrez en tirer un profit, une réparation, parce que souvent la plainte sert, ou le jugement, ou la condamnation sert de réparation. Donc il a fallu trouver une réparation autre, qui était plus personnelle et qui était plus intime, qui en tous les cas ne passait pas par la justice.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Le Consentement, 2e épisode. Un reportage de Delphine Dilly réalisé par Alexandra Malka. Notez que Delphine Dilly signe également un documentaire image qui sera diffusé sur France 2 début 2018 dans la case infrarouge. Merci à Gwen, à Raphaël, à Jérôme, à Estelle et à Benjamin.